France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, massacre à Moramanga ou une certaine idée de la pacification. Le 29 mars 1947, une insurrection éclate en plein cœur de la colonie française de Madagascar. Un groupe d'hommes munis de sagaies, protégés par des simples talismans, attaque au milieu de la nuit plusieurs camps militaires. Très vite, les Favalos, les rebelles, forment des maquis dans les grandes forêts à l'est de l'île Rouge. Un soulèvement général est à craindre, la République française doit réagir. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, d'Alger jusqu'à Saïgon, sur les quelques 13 millions de kilomètres carrés qui composent l'Union française, l'espoir a cédé la place à la colère parmi les peuples concernés. Difficile en effet de croire encore à l'émancipation politique promise après la signature par la France de la Charte des Nations Unies sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les Vietnamiens, eux, ont déjà pris les armes et les Algériens menacent. Pour le gouvernement tripartite de la 4e République, mené par des socialistes, des communistes et des centristes, il faut d'urgence éteindre le moindre foyer de contestation. Des dizaines de milliers de soldats sont alors envoyés sur l'île de Madagascar. Mission pacification. Méthode terroriser jusqu'à arracher à la racine le moindre soupçon d'espoir indépendantiste. Les moyens, carte blanche. Notre invitée aujourd'hui, Marie Ranjanuro, écrivaine malgache, autrice du roman Feu, Fièvre, Forêt aux éditions Latérite en mars 2023. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Bastien Jans, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Le 29 mars 1947, la nuit est tombée depuis longtemps sur l'île Rouge, mais personne ne ferme l'œil. Nous sommes à Moramanga, un gros bourg de l'est de Madagascar. Le commandant du camp de Tristani est dans l'expectative. Doit-il mettre en alerte ses tirailleurs sénégalais alors en garnison? Dans sa main, il tient fébrilement le dernier télégramme reçu par le colonel Léopold, le gouverneur militaire du sud de l'île.
Dernier renseignement précise. Attaque générale de Madagascar dans la nuit du 29 au 30 mars. Stop. Toute précaution prise.
Cette dernière alerte vient ponctuer des mois de tensions et de craintes d'un soulèvement à Madagascar, précisément à cette date du 29 mars. Mais comment croire que les indigènes oseraient se soulever? Ne serait-ce pas là une simple intoxication de la part du mouvement indépendantiste malgache? Son parti politique, le MDRM, de plus en plus influent dans la population malgache, pourrait bien chercher à faire pression et à créer un climat d'insécurité pour les colons français, et en vue des élections à venir. Bien. Mais de là à prendre les armes, et d'ailleurs, quelles armes? Même le haut commissaire de la République, Marcel de Coppée, tempérait la menace deux jours plus tôt dans un autre télégramme à ses administrateurs coloniaux.
Oui, ont été répandus dans certaines régions qu'une action serait entreprise contre Européens le 29 mars. Stop. S'agit, rumeur sans fondement réel que je vous signale pour votre édification. Mais invraisemblance n'exclut toutefois pas vigilance.
Non, décidément, le commandant du camp de Tristani à Moramanga ne croit pas à l'attaque. Il reste alors avec sa famille dans sa chambre d'hôtel. Et pourtant, vers 22h, en ce 29 mars 1947, des dizaines de pirogues fendent les eaux sombres du fleuve qui borde Moramanga. Et plus au sud, des centaines et des centaines de silhouettes émaciées émergent des forêts. La lumière de la lune fébrile à l'âme de leurs sagaies, de grandes lances à la pointe menaçante. Sur leurs torses est fièrement exposé le talisman censé les protéger. Les rebelles peuvent alors avancer sans craindre les fusils mitrailleurs des colons, car les sorciers les ont protégés par un sort. Ils n'ont qu'à crier « Rano, Rano » pour changer les balles en eau. Ils sont 2000 ce soir-là à entrer dans la ville de Moramanga, avec la détermination de ceux qui se savent protégés par les ancêtres. On les surnommera bientôt les Favalos, pour dire les ennemis de la France. Et cette fois, ils regarderont dans les yeux les Vaza, comme ils appellent ces maudits Français. 50 ans plus tard, dans le documentaire « L'insurrection de l'île rouge » de Corinne Godot, diffusé en 1997 sur Arte, deux d'entre eux se souviennent de cette nuit-là.
La nuit, dans la consigne, on a utilisé les lampes de poche. On a employé les lampes de poche à 10h du soir. À 11h, deuxième signal. À midi, troisième signal. Pop, en avant.
Pour la rébellion, nous avons improvisé. Beaucoup ne savaient pas qu'elle allait éclater. Nous étions tous d'accord pour la faire. C'était un suicide. Nous n'avions pas d'armes.
Vers minuit, les insurgés envahissent la gare pour bloquer la ligne de chemin de fer, pendant que d'autres investissent l'hôtel Larieux qui abrite les officiers français et leurs familles. Les consignes sont claires. Ne pas tuer de femmes, ni d'enfants, ni les étrangers, dès lors qu'ils ne sont pas français. Seuls les colons et les malgaches qui se sont compromis avec eux sont visés, et alors pour eux, pas de quartier. Car c'est bien l'impression de terreur que les Farvalos veulent laisser sur leur passage. Les officiers français, le commandant compris, sont froidement exécutés. Ensuite, le groupe de rebelles prend l'assaut du camp militaire, surprenant les tirailleurs sénégalais qui n'ont pas été prévenus de l'attaque. Leur cible, le dépôt d'armes et de munitions de l'armée française. Les combats sont rudes, nombre de tirailleurs tombent, mais ils repoussent tout de même l'attaque. Dans la confusion, les rebelles parviennent à s'enfuir avec un maigre butin, 50 mousquetons, 4 fusils anti-chars et quelques milliers de munitions. Mais c'est bien insuffisant, car la guerre qu'ils viennent de déclarer sera longue et déséquilibrée. L'attaque de la nuit du 29 mars aurait dû embraser l'ensemble de l'île. Mais à Diego Suarez, dans le nord, à Fiana Aranzoa, dans le sud, la tentative d'insurrection tourne court. Les militaires français sont sur le qui-vive. Dans la capitale, Tananarive, sur les hauts plateaux, en plein centre de l'île, les insurgés se résignent avant même d'attaquer. Il n'y a que sur la côte est que l'armée coloniale, semble-t-il, a été prise de court. Oui, mais pas pour longtemps. Car très vite, l'administration se met en branle. Des ordres sont télégraphiés en tous sens. Une répression sans limite se prépare. Et alors que les Farvalos sont disparus au cœur des immenses forêts de l'est de Madagascar, entraînant dans leur sillage des villageois pris dans le mouvement, il nous faut prendre un peu de recul pour comprendre. Qui sont-ils? Qu'espèrent-ils? Et qui a bien pu oser fomenter cette folle attaque contre la toute-puissante armée coloniale française? Janvier 1945, le gouverneur général de Madagascar, Pierre de Saint-Marthe, s'adresse aux Français de métropole sur les ondes de l'ORTF. Cette intervention fait suite au congrès de Brazzaville, où le général de Gaulle a ouvert la voie pour donner de nouveaux droits politiques aux indigènes dans les colonies françaises. D'autant qu'en cette même année 1945, la France signe la Charte des Nations Unies, reconnaissant le droit à tous les peuples du monde à disposer d'eux-mêmes.
Français de la métropole, il vous faut prendre conscience, non seulement de ce que représente la France d'outre-mer, mais aussi des responsabilités qu'implique pour nous le loyalisme des populations autochtones de nos colonies. Vous avez certainement entendu parler de la conférence de Brazzaville et de la nouvelle politique coloniale. Cette conférence a fait naître de grands espoirs au sein des populations de la Grande Île, dont les éléments les plus évolués, élevés dans nos écoles et parfois dans nos universités, revendiquent le droit d'être associés à la gestion des affaires de leur pays. Nous ne saurions nous étonner ni nous effrayer de ces aspirations qui sont au contraire garantes du succès de l'œuvre civilisatrice que nous nous sommes assignés en nous installant dans nos colonies.
Deux ans plus tard, au début de l'année 47, l'île Rouge bouillonne. Libérés des chaînes du code de l'indigénat, les Malgaches peuvent enfin accéder à des droits politiques. Avec la constitution de la 4e République et l'instauration de l'Union française, cette nouvelle donne de l'Empire colonial doit assurer à tous ses citoyens une égalité des droits. Et 3 postes de députés sont réservés à l'Assemblée nationale pour faire entendre la voix de Madagascar. Un un nouveau parti politique, le MDRM, Mouvement démocratique de rénovation malgache, connaît d'importants succès électoraux. Il a déjà installé 3 malgaches au Palais Bourbon, les docteurs Rawang et Rasset, ainsi que le poète Rabema Nanzar. Le MDRM canalise ainsi tous les désirs d'indépendance et autres pulsions de révolte qui traversent l'île et qui débordent ici et là. Mais pour accéder à l'indépendance, la population semble choisir la voie légale et parlementaire. On n'ignore pas non plus qu'à des centaines de milliers de kilomètres de là, la France a donné une réponse très claire à ceux qui peuvent pouvoir se déclarer libres sans l'aval de la République. D'ailleurs, tout y est dans le ton de ce reportage des actualités françaises en janvier 1947 et que vous allez entendre. On arpente une Indochine française à feu et à sang après l'insurrection du Viet Minh dans les pas du ministre socialiste des territoires d'outre-mer, Marius Moutet.
Hanoï, c'est là que débuta l'agression du Viet Minh. Hanoï dégagé, la lutte continue encore. Et de l'avion qui l'amenait de Saigon, M. Marius Moutet, ministre de la France d'outre-mer, a pu, en survolant les provinces de l'Annam et du Tonkin, en entendre encore les échos. Instant dramatique aux avant-postes. Notre reporter, parti avec une patrouille, essuie le feu des Vietnamiens. Hanoï, grâce à l'action efficace des troupes françaises, a été rapidement dégagé. Mais les ventes mènent toujours dans la campagne une lutte sporadique. Il faut combattre. Comme l'a dit M. Moutet, avant toute négociation, il est aujourd'hui nécessaire d'avoir une décision militaire.
Mars 1947. À Madagascar, des garnisons de tirailleurs sénégalais sont en transit vers l'Indochine. Devenu un point d'étape pour l'armée de répression coloniale envoyée par Marius Moutet, l'île n'en est pas moins traversée par une incroyable ferveur démocratique. Deux députés du MDMR, Rabema Nanzar et Rawang, sont revenus de Paris et battent la campagne en vue des élections au Conseil de la République. Le parti compte alors près de 300 000 adhérents. Il a ouvert des bureaux, des coopératives et des centres sociaux aux quatre coins de l'île. En avril d'ailleurs, le MDMR doit se réunir pour la première fois en congrès pour une véritable démonstration de force. Et évidemment, le succès du parti malgache ne plaît guère au plus haut niveau de l'État français. On craint qu'un nouveau foyer indépendantiste émerge sur l'île. Le gouvernement socialo-communiste MRP est déjà au bord de la rupture, divisé sur la question indochinoise et sur des questions de politique intérieure. Et puis le président de la République en personne, Vincent Auriol, ne comprend pas qu'on laisse fanfaronner ces députés indigènes avec leurs belles voitures, arpentant l'île comme des rois. Lors d'une réunion du Conseil des ministres, le 4 mars, Marius Moutet rassure ses collègues quant à ses intentions. Il attend simplement la bonne opportunité politique pour mettre fin à l'ascension du MDRM. La bonne opportunité. Qu'entend-il par là? Probablement, le ministre attend-il d'abord que quelques manœuvres machiavéliques portent leurs fruits. Un nouveau haut-commissaire, comme on appelle à présent le gouverneur de la colonie, un certain Marcel de Coppé, socialiste et ami d'André Gide, est envoyé sur l'île, avec pour mission d'appliquer la technique la plus éprouvée de l'histoire coloniale, diviser pour mieux régner. Dont acte. Pour entraver l'ascension du MDMR, un nouveau parti concurrent est fondé, le PADESM. Favorable au maintien de l'ordre colonial, il est aussi appelé le parti des déshérités, car il recrute principalement parmi les malgaches des côtes, qui s'opposeraient historiquement aux malgaches des hauts plateaux. La stratégie de la France est claire. Souffler sur les braises des vieilles rancœurs ethniques et décrédibiliser le projet d'indépendance du MDMR. Prenez garde, souffle Paris. Le MDRM veut rétablir l'ancien ordre féodal et l'esclavage de certains malgaches par d'autres. Bourrage d'urnes, changement des règles électorales au dernier moment, tout est fait pour entraver l'influence électorale du MDRM. Mais ce n'est pas tout. Le nouveau chef de la police coloniale, Marcel Baron, a fait infiltrer le mouvement jusque dans ses branches les plus secrètes. Car il n'ignore pas que Madagascar est traversé par des forces invisibles et il compte bien les utiliser.
Mes ancêtres sont morts pendant l'occupation française, fusillés par les Sénégalais. À cause de ça, je devais venger mon père et lutter pour acquérir l'indépendance. J'étais en colère. Je disais, nous sommes allés en France, nous avons combattu les Allemands, défendu la France, pays des Français. Pourquoi ne défendons-nous pas notre patrie ? Défendons Madagascar.
Vous venez d'entendre la voix de Monja Jaona, le fondateur de la GINA, l'une des sociétés secrètes malgaches en activité depuis le début des années 40. Dans la pure tradition des mouvements insurrectionnels malgaches, ces sociétés secrètes préparent depuis des années le grand soir. Par les armes, elles espèrent renverser l'ordre colonial. Mais l'émergence du MDRM les a mis en sommeil quelque temps. Elles se sont fondues dans ceux du grand mouvement indépendantiste. Mais la tentation de la violence reste forte. L'exemple indo-chinois, et plus généralement la politique de cette France, qui défend coûte que coûte les intérêts des 35 000 colons présents sur l'île, suffit à la réveiller. D'autant que les rangs des sociétés secrètes se sont garnis de milliers de vétérans malgaches. Après la libération de la métropole, le retour de ceux-ci au pays a été un calvaire qui a duré plus d'une année. Alors, la rancœur est immense envers cette France pour laquelle ils se sont sacrifiés. Dans le secret, mais avec l'oreille des espions de Marcel Baron, les chefs militaires des sociétés secrètes s'accordent pour passer à l'acte. La nuit du 29 mars est retenue. L'attaque sera générale, puis il faudra former des maquis et tenir en attendant une aide internationale, des Anglais ou des Américains. Et il y a d'espoir, après tout. Les Occidentaux ont signé la Charte des Nations Unies de 1945. Pourquoi ne défendraient-ils pas ces principes ? Mais il faut être fou pour croire à la réussite de cette insurrection. Ou être intoxiqué. D'abord parce que les agents infiltrés de la police coloniale font remonter toutes les informations depuis des mois. Mais allons plus loin. La France a-t-elle poussé les rebelles à attaquer pour mieux réprimer le mouvement indépendantiste ? Ou a-t-elle simplement laissé faire ? Le mystère demeure. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les dirigeants du MDRM ne veulent surtout pas de cette révolte armée. Le 27 mars, deux jours avant le passage à l'acte, ils font parvenir à tous leurs bureaux un message signé par les trois célèbres députés.
Prière diffusée et affichée texte, stop. Ordre impératif est donné à toute section, à tout membre MDRM. Gardez calme et sang-froid absolu devant manœuvres et provocations. Toute nature destinée à susciter troubles sans population malgache et saboter politique pacifique MDRM. Signé Raceta, Ravo Anji, Rabé Manajara et Bureau politique MDRM. Fin de citation.
Cruelle ironie, car c'est précisément ce télégramme pacifiste, envoyé deux jours avant l'insurrection, qui va servir de socle à l'accusation française. Et dès le lendemain de l'attaque du 29 mars, les colons désignent sans sourciller les responsables de la révolte. Dans le journal de Madagascar, on peut lire en gros ce titre. « Député du MDRM, qu'avez-vous fait ? Vous vous êtes rendu compte du sang que vous avez fait couler ?» Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, répression coloniale à Madagascar.
France Inter, Affaires Sensibles.
8 mai 1947, Palais Bourbon. Le député socialiste d'Alger, Ahmed Mezerna, monte à la barre. Dans sa main, il tient l'édition du jour de François. Le reportage publié en une est basé sur le premier récit des événements en cours à Madagascar. Un avocat français de Tananarive y raconte avec force détail la répression menée par l'armée coloniale, principalement par des tirailleurs sénégalais. Mezerna veut frapper fort pour dénoncer la répression française. Dans l'article sont écrites, noir sur blanc, les horreurs commises à Moramanga le lendemain de l'insurrection du 29 mars. Toute l'Assemblée entend alors le récit de ce qu'on surnommera plus tard l'Oradour malgache.
Au petit jour, les Sénégalais, furieux du massacre de leurs marabouts et de leurs camarades, envahissent le gros village de Moramanga et exercent des représailles contre la population. Bientôt, des centaines de cadavres jonchent les rues et les champs. Toutes les maisons sont incendiées. Le bourg n'est plus qu'un amas de cendres. À midi, le haut commissaire arrive. Il ne trouve pas un survivant. Le lendemain, les Sénégalais en fureur nettoient complètement la région avec l'aide de renforts. Tout ce qui bouge est lardé de coups de baïonnette. En 3 jours, des milliers d'indigènes sont tués.
Plus loin, l'article mentionne des rebelles brûlés vifs dans leur case, ou ces prisonniers qu'on monte dans un avion et qu'on lâche vivants au-dessus des villages dissidents. On appelle ça une bombe démonstrative. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les récits effrayants rapportés par le député Mezerna n'émeuvent pas le Parlement. En France, la quasi-intégralité de la classe politique soutient une nécessaire démonstration de force. Dans son carnet de notes, le président Auriol reconnaît juste quelques excès avec un étrange détachement. On a fusillé un peu à tort et à travers, mais sans jugement, écrit-il. Les députés communistes qui viennent de quitter avec fracas le gouvernement de Paul Ramadier sont les seuls à s'insurger contre ce déchaînement de violence. Mais leur position sur la question malgache reste ambiguë, car le PCF souhaite plus que tout le maintien de l'Union française. Non, dans cette assemblée française divisée de toutes parts, sauf quand il s'agit de défendre l'empire colonial, un seul homme tremble à l'écoute de la lecture de l'article de François. Joseph Racetta, le troisième député malgache resté en France au moment de l'insurrection, et qui se sait menacé. Il n'a cessé de crier son innocence, affirmant à qui veut l'entendre que son parti n'est pour rien dans le déclenchement de l'insurrection. Pour l'instant, il est protégé par son immunité parlementaire, mais pour combien de temps? Car ses deux collègues députés du MDRM, eux, n'ont pas eu cette chance. Présents sur l'île au moment de l'attaque, ils ont été arrêtés dès le 12 avril, l'autorité coloniale faisant fi de la protection juridique que leur confère leur statut. 30 ans plus tard, au micro de France Culture, le député Jacques Rabé-Manandjara se souvient de ces heures sombres.
Déjà, ils annonçaient dans leurs journaux, ils annonçaient que les députés malgaches, Ravouin, Grasset, Rabé-Manandjara, avaient donné les ordres, n'est-ce pas, d'assassinat contre les Français.
Et vous êtes rendu au haut-commissariat?
Chez le haut-commissaire, lui expliquait que nous n'y sommes absolument pour rien.
Et quelle a été sa réaction?
Vous savez, Décopé, moi je le considère comme un homme hypocrite. Parce qu'il dit, mais nous vous comprenons très bien, monsieur le député, nous allons voir tout cela, ce qui n'empêche que le soir même, nous avons été arrêtés.
Vous avez été arrêtés?
Nous étions arrêtés et on nous a emprisonnés. Devant la répression qui s'était abattue sur ce qu'on peut appeler les forces ou les organisations malgaches, comment pouvez-vous penser qu'un patriote malgache puisse dire, je me désolidarise de ces malgaches qu'on est en train de tuer?
Donc, si je comprends bien, c'est après ces provocations que vous avez...
Nous étions tombés dans le piège.
Dénoncer les rebelles malgaches qui luttent pour l'indépendance ou avouer être l'instigateur de la révolte, le choix réservé aux membres du MDMR est cornélien. En vérité, le chef de la sécurité, Marcel Baron, bourreau de Tananarive, va les aider à trancher. Dans son petit bureau, les membres du MDMR défilent et sont tous soumis à la question. Il leur faut avouer que c'est bien la direction du parti qui a donné l'ordre d'insurrection. Sinon leur tête est plongée dans un seau d'urine, les coups de nerfs de bœuf pleuvent et ils peuvent retourner croupir dans le poulailler qui leur sert de cage. Mais il y a pire encore. Le 5 mai au soir, un wagon à bestiaux est stoppé en gare de Moramanga. À l'intérieur, 166 malgaches, encartés au MDMR, sont entassés, terrorisés. Ils attendent leur jugement, là, sur la ligne de chemin de fer construite à la sueur du front de leurs parents, contraints pendant des décennies au travail forcé. Et le procès est expéditif. Après une vive discussion entre les officiers français, ordre est donné de mitrailler le wagon. Le lendemain, 71 des 166 prisonniers ont survécu et gisent au milieu de 95 cadavres. Et ce n'est pas fini. Sur ordre du commandant, les 71 rescapés sont fusillés sur le champ. Un seul par miracle échappe au massacre. Un seul témoin pour raconter la réalité de la politique dite de pacification française. S'il est évident que l'armée coloniale fait preuve d'un zèle assassin, elle ne fait qu'appliquer les mots d'ordre en provenance de Paris. Le ministre des colonies, Marius Moutet, réitère à chaque conseil son désir de voir les têtes tomber. Et la presse s'y met, qui, mise à part l'humanité, réclame de concert une répression dure contre ceux du MDMR qui refusent de coopérer. Dans François, on considère même que, quand les principes sont dépassés par les événements, leur violation est parfois nécessaire pour la sauvegarde même des mêmes principes dont ils se réclament. Autrement dit, massacrons pour défendre la civilisation. En vérité, c'est comme si le gouvernement bénéficiait d'un plan simple pour sauver l'Union française. Ainsi, le 6 juin, le Parlement vote pour la levée de l'immunité du député Razetta. À la sortie de la séance, l'homme est arrêté devant le palais Bourbon et envoyé à Madagascar dans les griffes de Marcel Baron. Si l'épuration politique du NRM est menée avec une redoutable efficacité, sur le terrain, la France est loin d'avoir maté la rébellion qui ne cesse de s'étendre à l'orée de l'été 47. Ce même 6 juin, quand le député Razetta est arrêté, la RTF propose à ses auditeurs un reportage sur les rails au cœur des terres insurgées, près de Moramanga.
Il fait déjà nuit à Manjacandrine et la descente de la Mandrake s'effectue dans l'obscurité. Le chauffeur doit prudemment réduire la vitesse et s'use les yeux à observer à travers les volets de l'avant si la voie n'est pas coupée ou si un des nombreux rochers qui dominent le ballast dans la gorge n'a pas été mis en travers du chemin. Quelques rassemblements ont pu être repérés, quelques repères détruits, mais les rebelles n'en demeurent pas moins aux environs de Moramang et attaquent les lieux qu'ils estiment moins bien gardés, comme la gare d'Envoichard par exemple sur le MLA. Quelquefois, le soir, on aperçoit les feux qu'ils allument dans la brousse. Ce soir encore, peu avant notre arrivée, l'artillerie a tiré sur une crête. Pour l'instant, les rebelles ont encore la vie agréable, mais la période de la contre-attaque viendra bientôt.
Depuis l'attaque du 29 mars, l'insurrection s'est déployée sur un vaste territoire du sud jusqu'au nord de l'île. Les armées rebelles sont structurées, méthodiques, emmenées par deux généraux charismatiques rompus à l'exercice de la guérilla. Les principales villes restent bien sûr quadrillées par l'administration française. Pour pallier le manque de soldats, seulement 6000 sur le territoire, les Français n'hésitent pas à armer de colons et des malgaches qui collaborent. Une véritable milice fait régner la terreur. Dans les campagnes en revanche, l'affaire est tout autre. Les forces rebelles trouvent des relais dans tous les villages. Il faut dire qu'ils exercent aussi une répression féroce contre les malgaches qui seraient tentés de soutenir les Français. De véritables maquis se forment ainsi dans les forêts, autour des lacs, et, plus ennuyeux pour Paris, autour des précieuses mines de graphite. À la mi-juin, et durant tout l'été, les renforts français arrivent en masse. 18 000 hommes en tout. Quelques parachutistes et beaucoup de tirailleurs sénégalais. Ces troupes coloniales étaient normalement en partance pour l'Indochine. Mais c'est à Madagascar qu'elles vont devoir éprouver la colère des peuples qui rêvent de liberté. Oh, il y a bien quelques voix en France pour s'opposer à cette répression féroce, et surtout aux arrestations illégales des hommes politiques malgaches. L'avocat Pierre Stib, flanqué du jeune Henri Douzon, par exemple, s'engage à défendre les députés toujours emprisonnés. Les deux seront violemment molestés par des colons et échapperont de peu à des tentatives de meurtre. Leurs agressions créent quelques remous tout de même dans l'Hexagone, mais pas de quoi remettre en cause le processus de pacification en cours. À vrai dire, on s'intéresse de loin à ce qui se passe sur l'île Rouge et peu d'informations parviennent aux oreilles du grand public. Alors quand le haut-commissaire Copé, accompagné du fils Moutet, débarque sur le tarmac d'Orly pour faire leur rapport au chef du gouvernement, les journalistes tendent leur micro.
Et voici que M. De Copé, aux cheveux tout blancs, descend le premier, mais nous voyons approcher avec le micro, pose un doigt sur sa bouche et nous comprenons ce que cela veut dire. Et voici que M. Gustave Moutet descend derrière le haut-commissaire et nous lui demandons de bien vouloir vous confier ses impressions générales sur la situation actuelle à Madagascar.
Ben, je ne peux pas vous dire grand-chose, je peux vous dire simplement que j'ai fait un voyage extrêmement agréable et que le haut-commissaire s'est mis en quatre pour me faciliter mon voyage et ma mission.
Bon, situation générale bonne à l'heure actuelle, je m'excuse d'insister, mais je sens que vous ne pouvez pas dire grand-chose de plus.
On ne peut pas dire grand-chose de plus, la situation se présente bien.
Bon, eh bien, merci.
Comprendre, la situation est sous contrôle, la sécurité des colons est assurée. Et pourtant, il faudra encore des mois et des mois pour étouffer totalement la rébellion et débusquer jusqu'au fin fond des forêts les derniers combattants qui crèvent alors de faim par dizaines de milliers. En décembre 1947, c'est avec le ton doucereux du colon apaisé à la puissance retrouvée et ce regard teinté de condescendance pour ces indigènes qui ont osé se révolter que les actualités françaises peuvent relater le triomphe français.
À Madagascar, où des troubles séparatistes avaient éclaté ces derniers mois, le calme revient. Et un peu partout dans la grande île, les rebelles sont venus faire leur soumission aux autorités françaises. À Mandiacandria, 3500 guerriers et leur chef ont déposé les armes et imploré à genoux le pardon que devait leur accorder le représentant de la France. Après cette cérémonie, un taureau était mis à mort. Et chaque guerrier marqué du sang de l'animal sacrifié s'engageait aussitôt à respecter la paix nouvelle. La population malgache, qui a eu à souffrir des excès des bandes insurgées, a compris aujourd'hui que seul un climat de compréhension mutuelle peut ramener la prospérité sur cette terre.
Quelques mois plus tard, le grand procès des trois députés malgaches se tient en grande pompe à Tananarive. Sur la foi des aveux des accusés, aveux arrachés par la torture, les juges prononcent leur condamnation à mort. Le souhait du ministre Moutet, moult fois répété, est donc exaucé. Le MDRM est décapité. On estimera plus tard, dans une enquête commissionnée par le Parlement en 1948 et menée par un certain Gaston Defer, les conséquences humaines de la répression de ces troubles. Avec la désinvolture de ceux qui se pensent dans leur bon droit, de ceux qui n'ont fait que punir, ces ingrats qui ne connaîtraient même pas le vocabulaire de la liberté si la France ne leur avait pas appris, je reprends les mots du héros de la résistance Henri Tedjen, le rapport annonce 89 000 morts insurgés pour 550 victimes françaises. Ce premier bilan ne cessera d'être revu à la baisse par la suite, sans que l'on comprenne ce qui vient étayer ces révisions statistiques, si ce n'est l'honneur perdu de nos puissances coloniales qu'on cherche à dissimuler. Mais quelle est causée 30 000 ou 89 000 morts ? La France, tout juste libérée du joug nazi, vient en quelques mois de montrer le visage intraitable et effrayant qui sera le sien dans ces décennies de décolonisation. D'Asie en Afrique, aux quatre coins de feu l'empire colonial français, le sort réservé aux insurgés malgaches va résonner d'une note terrifiante dans le cœur de ceux qui nourrissent un même idéal de liberté et donner, avec le recul, un sens assez clair à l'idée de repentance. Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, massacre colonial à Madagascar. On en parle avec notre invitée Marie Rangianoro. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous avez publié en 2023 le roman Feu, Fièvre, Forêt aux éditions Latérite qui a pour cadre l'histoire qu'on vient de raconter. Pour commencer d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur ces événements de 1947 et surtout, pourquoi avoir choisi la forme du roman?
C'est assez terrible la circularité de l'histoire. Tandis que je vous écoutais en train de rapporter les propos du député Ahmed Mézerna dans l'hémicycle, on avait à l'instant dans le studio, sous les yeux, dans le même hémicycle du Palais Bourbon, un débat sur un massacre colonial. Donc à 77 ans d'écart. Et c'est peut-être pour ça que j'ai voulu effectivement écrire ce roman. Parce qu'on parle de mémoire coloniale et on parle d'histoire, mais en réalité, il y a un continuum des violences coloniales. Moi, je suis native et de nationalité malgache. J'ai grandi à Madagascar, mais j'ai fait toutes mes études dans le cursus français, dans le système de la coopération culturelle française, donc, dont on connaît les systèmes. Et je suis en cela ce qu'on peut appeler un pur produit colonial. Parler de 1947, c'est me réapproprier ma malgachité, mais aussi, je crois, donner un nouveau regard sur 1947, le regard de la quatrième génération après les faits, et celui d'une femme métisse voilà, qui a grandi sur cette île, un peu amputée de cette histoire.
Et pourquoi le roman, pour le coup ?
Le roman, c'est par affinité, en premier lieu, mais le roman, c'est aussi le genre littéraire de la subjectivité. Et je pense que pour c'est l'écriture du jeu, en premier lieu. Et je pense que pour aborder les événements coloniaux, on a trop usé du langage textuel, du langage historique froid, détaché des archives, qui se désincarne. Or, le roman réincarne et réinsère les narratifs au cœur même des corps et des chairs qui ont subi la colonisation. Et je l'ai dit, je le répète souvent, en fait, si on ne fait pas état de cette violence coloniale à travers les corps qui l'ont subi, la violence physique, sexuelle, l'exploitation économique et toutes les tortures dont vous avez parlé dans votre récit assez glaçant à l'instant, je pense qu'on ne rend pas compte entièrement de la réalité coloniale.
Alors le roman, c'est l'histoire aussi à hauteur d'homme ou de femme. Hein. Puis c'est aussi toujours un exercice de style et de ce point de vue, j'ai envie de lire les premières lignes de votre roman parce que c'est magnifiquement écrit. Ce que je vais dire ici, je ne sais pas si je m'en souviens ou si on me le racontait. Mais le souvenir, je le vois comme je vous vois. Je l'entends comme je vous entends. Et je crois aussi sentir l'odeur du bois, du sisal tressé et de la sueur. Un souffle soulève la poussière. Dans la maison, on entend un râle continu et le murmure des femmes. Toujours, je me suis réveillé et endormi au son de leur voix. Comme un fil que rien ne rompt jamais, ce son accompagne chaque instant de ma vie. Voilà, ce sont les premières phrases de votre roman. J'espère que ça aura donné envie de vous lire.
Quel honneur et quel plaisir d'entendre mon roman à travers votre voix, la voix si singulière d'Affaires Sensibles.
Merci. Vous êtes née donc à Madagascar, vous venez de le confirmer. Alors, quel regard portent les Malgaches aujourd'hui sur cet épisode extrêmement sombre de leur histoire ? Existe-t-il toujours une forme de tabou, de mémoire empêchée ou au contraire assumée ?
Alors, je pense qu'il y a une mémoire à deux vitesses sur 1947. Il y a effectivement une mémoire officielle. Le 29 mars 1947, qui correspond à l'attaque du camp militaire de Moramang, est célébré tous les ans, en grande pompe, par le pouvoir présidentiel, dans les hauts lieux de l'insurrection. Les monuments aux morts de 1947 sont comme les vôtres, vos monuments de la Grande Guerre et de 45, éparpillés un peu sur le territoire et soigneusement entretenus. En revanche, et c'est pour ça que je reviens à la texture du roman et la texture humaine et sensorielle du roman, l'histoire racontée à travers les familles d'une génération à une autre, elle est amputée. Elle est silenciée. Et pourquoi ? Parce que il y a un tabou déjà à l'intérieur des familles, celui de l'échec et de la défaite. On ne raconte pas l'histoire dans une guerre qu'on a perdue, comme on la raconte pour une guerre qu'on a gagnée.
Bien sûr.
Madagascar vit avec la honte, la déchirure et cet extrême tabou de la violence aussi qu'il y a dans la culture malgache qui empêche le récit de ces événements terribles. Donc d'une part, il y a l'humiliation d'avoir perdu, mais aussi ce rejet de la violence, je dirais. Enfin, les personnes qui ont participé à l'insurrection ont souvent été exécutées, emprisonnés et déplacés, donc arrachés de leur bassin familial.
Déportés, quoi.
Voilà, déportés, exactement. Et ce qui les ampute, en fait, de leur environnement familial et proche, et donc ce qui a empêché la transmission au sein des générations. Il y a aussi une histoire de collaboration. toute, comme le dit ma prof d'histoire, 1947, ce n'est pas l'histoire des Français contre le malgache, mais c'est une histoire de Français de malgache contre d'autres malgaches. Mmh. Et donc, il y a cette déchirure-là qui empêche aussi, je pense, la mémoire de circuler librement.
Alors, il y a le déshonneur côté français, c'est notamment l'intervention des tirailleurs sénégalais. Il y a quand même une forme de perversité de la répression coloniale. En somme, ce sont les populations colonisées qui font le sale boulot. C'est terrible aussi, ça.
Oui. Alors moi, c'est un sujet que j'ai absolument voulu aborder dans mon roman. Donc j'ai sous la forme du sergent-chef Amoulia Carso, qui est un tirailleur sénégalais, effectivement. Il est vraiment sénégalais, pour le coup, parce que sous le terme galvaudé de tirailleur sénégalais, évidemment, il y a tous les tirailleurs coloniaux d'Afrique de l'Ouest. Il y a des Tchadiens, des Maliens, des Ivoiriens, mais il y a aussi beaucoup de Maghrébins. Il y a même eu des officiers algériens et marocains dans l'armée coloniale française. Et alors, perversité ou économie coloniale, génie stratégique, je ne sais pas. En tout cas, les tirailleurs sont employés effectivement dans les terrains coloniaux parce qu'ils ont l'expertise de ces terrains-là. Parce que, effectivement, c'est plus aisé d'envoyer un tirailleur guinéen à Madagascar qu'un Français du Berry qui...
C'est complètement pervers et cynique.
Évidemment, on est d'accord. Et en fait, la double tragédie là-dedans, c'est que 2 ans plus tôt, tous les tirailleurs ont participé à la libération de la France ensemble, côte à côte.
Mais bien sûr.
Ils ont été enfermés ensemble dans les fronts de Stalag allemands et dans les camps d'internement français quand la France a rendu les armes en 1940. Donc ils ont formé une solidarité au sein de l'armée française. Et ils se retrouvent 2 ans plus tard, de part et d'autre du fusil, c'est-à-dire à se tirer dessus. Et moi, c'est une tragédie qui me traverse et que j'ai voulu raconter, absolument.
France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Marie Rangelanoro, la guerre à Madagascar, je dis la guerre pour ne pas tomber dans le piège des événements. Non, c'est une guerre coloniale qui a fait beaucoup de victimes, puis qui a duré quand même près d'un an et demi. Donc elle se termine symboliquement par la parodie de procès des 3 députés du MDRM. Parfois j'ai dit MDMR, mais c'est bien MDRM, voilà, j'assume. Peut-on revenir sur le sort de ces 3 hommes politiques et de la place qu'ils occupent dans le panthéon national malgache? C'est la deuxième partie de la question qui m'intéresse le plus.
Alors, c'est... À comparer avec votre histoire aussi, la résistance, en fait, toutes les insurrections sont peut-être faites pour être trahies. Donc, à l'exception de Joseph Rasset, sur lequel je reviendrai plus tard, les 2 députés, Joseph Rabouang et Jacques Rabé-Manandjar, sont effectivement condamnés à perpétuité, aux travaux forcés, voire à mort, puis amnistiés, déplacés de bagne en bagne, à résidence, assignation à résidence. Donc ils ont fait un petit séjour au bagne de Calvi, et puis ils sont retournés en France jusqu'en 1960, qui est l'indépendance officielle de Madagascar. Ravouang et Rabé-Manandjar participent au gouvernement de la Première République de Madagascar sous le président Tirane, qui est un gouvernement d'intelligence et de clientélisme assez fort avec la France encore. En revanche, Joseph Rasset sera dans l'opposition à ce gouvernement-là et dénoncera sa collusion avec l'État colonial post-colonial français.
Est-ce qu'ils ont le statut de héros quand même aujourd'hui?
Comme d'habitude, la héroïsation des figures historiques, elle est toujours instrumentalisée et le roman national se nourrit de ces figures-là. Donc les deux... Il faut savoir que le gouvernement de Philibert Tirane a été ensuite empêché en 1972, qui est peut-être une troisième indépendance de Madagascar. Il y a 1947... celle qu'on a tenté d'arracher, 1960, celle qu'on nous a donnée pour avoir été des enfants sages, et 1972. Donc la réelle indépendance de Madagascar, tant est qu'on peut en parler sous ces termes. Le président Didier Ratsirque, sous la Deuxième République, fait de Joseph Rasset, qui a été un opposant à Tirane, donc le premier président, un héros national. L'ordre des combattants et un héros national officiel, etc., post-mortem. À ce stade, donc, il n'y a pas beaucoup d'enjeu à nommer quelqu'un qui est mort d'une médaille et quelqu'un qui ne peut plus se défendre d'être héroïsé par telle ou telle partie. Donc je pense qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes effectivement ce type de mesures. Le cas de Jacques Rabet-Manandjar est intéressant, lui en tout cas. Il est exilé en 1972 puisqu'il faisait partie du gouvernement Tirane qui a été bouté hors du pouvoir par le peuple. Mmh. Il a fini sa vie en France. Effectivement, vous l'avez mentionné comme essayiste, dramaturge et poète. Et il est mort en 2005 en France. Donc là où,
quel symbole.
Voilà, c'est assez parlant.
Vous m'avez répondu, dans votre réponse, j'ai senti de votre part un sentiment selon lequel, bien sûr, Madagascar est indépendant officiellement, mais qui a encore des liens organiques avec la France.
Bien sûr, la France entretient avec son espace colonial toujours une relation forte.
La France-Afrique
Oui, convulsive et passionnelle, telle que la France-Afrique l'est. Mmh. Le président malgache, Ange Radouin, a la nationalité française. Le français est toujours une langue officielle à Madagascar. Et comme on le sait, et moi je peux en témoigner, en fait, il y a une forte... relation de clientélisme entre la France et ses colonies.
Ce sera le mot de la fin, Marie Rangiano. Merci infiniment. Je rappelle le titre de votre livre, Feu, fièvre, forêt. Un roman chez Latérite. Merci, au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Massacre à Moramanga, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini.
Affaires Sensibles est un podcast France Inter.